sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Spectacle vivant.
Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Raissa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Clément Daté. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi ce soir, Lucille Como, Fabienne Pascaud et Philippe Chevillé pour parler ensemble du dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes. C'est un diptyque de Simon Apkarian au Théâtre du Soleil. La Ménagerie de verre de Tennessee Williams, mise en scène de Charlotte Rondelet, c'est au Théâtre de Poche Montparnasse. Fabienne Pascaud délivrera un coup de cœur, suspense, sur celui-ci. Le petit salon de Lucille Como posera cette question terrible. Est-il encore possible de monter Racine ? Réponse au cours de cette émission, bien sûr, réponse avec beaucoup de S à la fin. Aïssa Tundoy est là pour nous donner à entendre vos commentaires via Facebook ou le compte Twitter de La Dispute. Et puis toujours des cadeaux à gagner plutôt qu'à granier dans cette émission. Ce soir, des invitations à la prochaine séance France Culture avant-première. Ce sera pour le film Rafiki en présence de la réalisatrice Wanuri Kaiyou. Ce sera jeudi 13 septembre à 20h au Majestic Bastille à Paris. Ce sera bien sûr une soirée animée par Antoine Guillot. Pour commencer, avant ce riche programme, une triste annonce, toujours celle d'une disparition, en l'occurrence celle de Micheline Rozan, qui aurait dû fêter ses 90 ans demain, 11 septembre. La vie en a décidé autrement. Micheline Rozan, on ne va pas faire ici le parcours Fabienne Pascaud parce qu'il est phénoménal de Jean Villard à Peter Brook, en passant par beaucoup, beaucoup d'autres gens.
Ben, le fait d'avoir été agent aussi de Jeanne Moreau, d'Annie Girardot. Oui, Micheline Rozan, c'est une grande figure du théâtre, une terreur, un dragon du théâtre. Hein. Je me souviens qu'elle avait donc, avec Peter Brook et Jean-Claude Carrière, réinventé les Bouffes du Nord en 1970. Et c'est à elle qu'on doit la production du Mahabharata. Elle a beaucoup aidé Peter Brook qui pouvait se confier à Micheline Rozan, lui jouant la partie artistique et elle assurant les finances du main de fer, parce qu'elle avait beaucoup bourlingué, hein, vous le disiez, elle avait commencé dans les mouvements étudiants même, organisant des réunions, des week-ends culturels, et puis Jean Villard, et puis cette énorme agence artistique où elle s'est occupée des plus grands, faisant des voyages beaucoup aux États-Unis. C'était quelqu'un pour lequel on avait beaucoup de respect. Elle était assez revêche quand on la voyait. Elle faisait un peu peur, mais c'était une maîtresse-femme qui connaissait son métier jusqu'au bout du doigt. Et moyennant quoi, quand elle vous avait pris en affection, mais il y avait tout un parcours du combattant à faire, hein, tout un parcours de journaliste scrupuleux qui connaissait son métier, qui bossait parce qu'elle avait un énorme respect pour le travail. Elle vous adoubait et vous étiez reconnu. Elle a même été très sympathique avec certains journalistes ou certaines d'entre nous, parfois dans la détresse. C'était une femme très bien.
Voilà, il fallait évidemment saluer ici sa mémoire à Micheline Rozan, dont on a appris aujourd'hui la disparition. On ouvre, parce qu'elle aimait le théâtre, alors on va parler de théâtre, on va parler de Simon Apkarian, une carrière aussi, alors pour l'instant moins longue, mais pas moins surprenante, puisqu'on peut le voir, on l'a pu le voir dans un James Bond, hein, c'était dans Casino Royale, mais on a pu le voir aussi souvent dans la caméra d'une autre disparue qu'on regrette, c'est Ronnie Telkabetz, par exemple, hein, pour voir un peu le spectre de cet homme-là. Il revient au Théâtre du Soleil, puisque c'est quand même là aussi que lui a commencé, le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine. Il y avait fait ses débuts, il y propose actuellement un diptyque qu'il a écrit, Simon Apkarian, qu'il met en scène et qu'il interprète, avec beaucoup d'autres personnes autour de lui, des histoires tumultueuses d'une famille méditerranéenne entre paradis perdu, guerre et exil.
Il a mangé celle-là. T'as vu d'où il tire?
Non. Mais lui, il nous voit.
La prochaine fois, je la mets en pleine tête.
Fuis, Orna. Avant que le soleil ne l'emporte sur la lune, fuis. Lise-toi dans l'ombre des ténèbres et cours chez Nouritza, Aucun de ces chiens ne peut franchir les hauts murs de sa maison.
Les images de notre ruine ont fait le tour de la planète plusieurs fois. Combien de temps nous faudra-t-il attendre? Qui nous a répondu? Combien de mains se sont tendues? Non, Zella. Non, Zella, pour nous, il n'y a plus de monde.
Elias, tu ne devrais pas aller dans le quartier de Dina. S'ils découvrent que tu es le fils de Théos, ils te tueront. Et après?
Et après, je serai mort.
Noritza, tu vas finir cette guerre, je te le promets.
Ouais, je sais. Tes promesses, tu les as toujours tenues, mais moi... Moi, je serai finie, avant.
Hé hey! Ça va, la plus belle du monde?
Qu'est-ce que tu fais, adossé au mur, à te gratter les couilles?
Et quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je m'adosse sur mes couilles, que je gratte le mur?
Si tu veux plus jouer le rôle du marié, joue celui du père.
Et ce rôle-là, comment l'incarner? Hein? Et ce personnage-là, je le joue malgré moi de plus belle murette. Un jour, le destin, il me toque à la porte, là, toc-toc, bonjour Minas. Tiens, il va nous jouer le rôle du veuf rendu fou de chagrin par la mort de sa femme. Et plouf, il me plonge dans le fleuve du malheur.
Dans cette phrase que tu me dis, il y a tout. Il y a tout. Si maintenant je meurs, eh bien je partirai tranquille. Tranquille. Avec ton image. Là. Là. Enfermée dans le livre de mes yeux. Je te dis ça parce que si t'as envie de moi. Ouais, j'ai envie de vivre.
Voilà. Une fin abrupte. Est-ce la fin de ces pièces? Donc, c'était un montage des deux pièces que moi je n'ai pas encore vues. Il faut une grande place dans votre emploi du temps. Vous l'avez trouvé, tous trois. Je vais commencer par Fabienne Pascaud qui va me parler, parce qu'elle est déjà en voix ce soir.
Voilà, et Simon Abkarian, il a beaucoup appris auprès d'une grande, grande femme de théâtre aussi, qui est Ariane Mouchkine, et qui l'a invité dans son Théâtre du Soleil pour cette saga qui dure quand même. Hier, nous avons assisté avec Philippe, je ne sais pas si vous y étiez aussi.
Oui, vous avez vu la même représentation.
Bon. Oui, alors donc 4h et 2h30 quand même. Hein.
6h30.
6h30 avec un entracte. Mais ça marche. Moi, j'ai un petit faible pour la première partie que je n'avais pas vue, qui a été créée déjà, je crois, qui est drôle, qui raconte une saga familiale dans un quartier. Alors là où il est très 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 fort, Simon Abkarian, c'est que ça n'est pas très strictement situé. On sait que c'est dans la Méditerranée, on sait que c'est dans un pays en conflit. Évidemment, on pense un peu au Liban, bien sûr, assez vite, mais ça reste flou. Donc, ça lui permet de mélanger une histoire familiale qui pourrait être celle d'une série, avec la tragédie antique, avec des personnages archétypes qui sont tout à fait bien rendus et particulièrement bien joués par toute la troupe. Moi, ce que je lui reprocherais un petit peu, parce qu'on c'est tellement bien joué qu'on rentre dans cette famille, il est, et c'est plutôt un côté sympathique, il est ouvertement féministe, peut-être un peu trop. Il prend constamment le parti des femmes d'une manière un peu volontariste, un peu pédagogique, pour nous raconter que la Méditerranée, c'est parce qu'on n'a pas écouté les femmes qui a eu la guerre. Finalement, les femmes, elles étaient beaucoup plus intelligentes. Les hommes, ce sont des machos qui ont voulu jouer aux soldats de plomb. Donc
bon,
ça,
notez bien que ça change, hein, par rapport à beaucoup d'autres pièces.
Ça change formidablement.
Mais c'est peut-être un peu trop pour vous.
Un poil trop. Mais moi, j'aime bien sa langue. Au début, on se dit, mon Dieu, c'est genre Olivier Pie, méditerranéen.
Ouais, j'ai lu un peu.
Fleury,
oui.
Claudelien, waouh. C'est très étrange. Et puis, on rentre là-dedans, c'est flamboyant, c'est grandiloquent, c'est excessif, c'est méditerranéen, c'est péchu, quoi. Et couillu, on peut le dire. Parce qu'il y a beaucoup, sexuellement, c'est assez fleuri comme langage.
Ben, comme le vôtre à l'instant, Fabienne Pascaud. Lucille Como pour poursuivre sur ce diptyque qui a d'ailleurs un titre, hein, je ne l'ai pas bien dit, c'est Au cœur des ténèbres.
Oui, c'est très impressionnant comme projet. La langue est très impressionnante. Je suis d'accord avec Fabienne. Au départ, on a un petit peu de mal. Moi, j'ai mis bien une bonne demi-heure à entrer dans ce régime d'un langage extrêmement fleuri, très imagé. Il y a des métaphores, mais toutes les deux secondes.
Bon, il vous restez 6 heures, donc du coup, ça.
Voilà, allait. ça peut être fait lourd. Beaucoup. En fait, parfois, on sent qu'il y a de l'autodérision et que l'écrivain est pas dupe du propre fonctionnement de son écriture. Du coup, ça passe, mais il y a quand même des passages extrêmement lyriques, je pense notamment dans la première partie, là, si on s'en cantonne à cette première partie de duel. Il y a plusieurs conflits entre les deux sœurs de Nouritsa, donc qui est cette mère nourricière qui est en fait le centre de la pièce. Elle a deux filles, Zenia et Astrigue, qui s'affrontent dans la première partie sur la liberté, sur ce que c'est que se donner à un homme, ce que ça suppose et en gros leur avenir avec un homme. Ça dure, en fait, il y a des effets de répétition dans cette langue et dans ce théâtre qui, moi, m'épuise un peu. Et c'est vrai que sur toute la longueur, les 6h30, c'est un peu long. Après, je pense que si on voit qu'une pièce, ça passe très bien parce que c'est une langue en effet lourde mais qui s'assume comme telle et ça passe bien.
Elles sont présentées en alternance dans la semaine et elles sont données en intégrale les samedis et dimanches. Non, mais parce que ça peut être une bonne façon de découvrir.
Oui, je pense que c'est peut-être un peu long de les voir l'une après l'autre.
Le soir, l'autre.
Parce qu'en plus, la deuxième pièce, en fait, est presque la même, mais en temps de guerre. On retrouve exactement les mêmes fonctionnements narratifs. Voilà, il y a à nouveau un mariage, il y a à nouveau une jeune femme qui est la victime absolue et qui va connaître une forme de rédemption. On ne va pas révéler, mais les fonctionnements narratifs sont exactement les mêmes. C'est d'ailleurs fait exprès. On voit vraiment un quartier en paix, un quartier en guerre, et à chaque fois, on retrouve les mêmes mécanismes de récit et on les éprouve dans deux situations différentes. Je veux juste rebondir sur les femmes tout de suite parce que bon, c'est évident que c'est ça ce qu'a voulu faire Simon Abkarian. D'ailleurs, il le dit dans sa note d'intention qui n'est quasiment que à propos de ça, de la question des femmes. Moi, ça m'a quand même beaucoup dérangée. On sent le féminisme un peu à l'ancienne de l'homme coupable. Il en rajoute tellement en effet.
J'allais dire que c'est du machisme. Vous vois venir.
Pas totalement, mais par contre, moi, à mon avis.
C'est d'une autre génération.
Pas non plus, parce que je pense qu'il est très honnête dans son propos et c'est pour ça que c'est pas absolument insupportable. Mais en fait, il retourne tout, mais dans un fonctionnement qui est totalement le fonctionnement patriarcal. C'est-à-dire que les femmes, elles sont couillues, entre guillemets. Et ce qui, à mon avis, n'est pas la preuve.
Deuxième occurrence pour cet adjectif.
Parce
ce
que
soir.
D'ailleurs, en plus, il le dit, c'est un mot qui revient à plusieurs reprises.
Il vous a contaminé.
Il y a pire. De son vocabulaire. Moi, ça me dérange un petit peu. Il y a quelque chose de très 20e siècle dans sa manière d'aborder la question féminine. De la
vous
même
pas
manière.
Reprocher sa date de naissance, à Simon Abkarian.
Non, mais c'est pas. La pensée qu'on veut, je veux dire. C'est pas.
Oui,
elle est
marquée quand même par.
Enfin, c'est tellement rare. C'est tellement rare quand même qu'on peut lui rendre hommage. Même si on trouve ça peut-être.
En fait, je rends hommage à son intention. Je pense que inconsciemment passent d'autres choses finalement rabattent à la question du machisme méditerranéen. Je veux juste citer un exemple parce que du coup, on n'a pas beaucoup
dit de quoi il s'agit. Philippe Chevillier puisse participer à cette discussion.
Par exemple, ce personnage principal qui s'appelle Nouritsa et qui est le personnage principal interprété par Ariane Ascaride reste, même si elle a toute la force et le pouvoir de son caractère, un personnage de mama méditerranéenne qui sort en plein conflit, en peignoir et en petite sandale à pompons pour aller chercher son fils dans la ville quasiment sous les bombes. Pour moi, ça reste totalement empreint des clichés de la femme méditerranéenne telle qu'on peut la voir dans le théâtre populaire ou dans le cinéma ou dans les séries, même télévisées en effet populaires.
C'est la mère éternelle.
Oui, voilà, le côté sorcière, hyper archaïque
c'est
des femmes.
C'est pas Lara Croft, quoi.
Bon, c'est pas non plus incroyablement révolutionnaire le propos sur les femmes. De la même manière que, mais on y reviendra, la Méditerranée qui est censée être indéterminée, elle est quand même extrêmement bien située sur la scène par les accents, par les vêtements. C'est, en fait, le problème, c'est que je pense qu'il a voulu se départir de modèles dont il n'arrive pas totalement à s'écarter. Mais...
Alors, entendons à présent Philippe Chevillier nous parler de ce diptyque signé Simon Abkarian.
Alors, juste un petit mot sur le féminisme. J'ai eu le sentiment que c'était une pièce féministe autant qu'un homme peut être féministe quand il écrit une pièce, puisque c'est, voilà, et avec les contradictions. Cela dit, l'exemple de Nouritsa, c'est quand même, oui, il s'ancre aussi à la fois dans le rêve et dans le réel. Et le réel, c'est les contradictions, la tradition, ces femmes face à la tradition. Et Nouritsa, justement, n'est pas la femme la plus émancipée émancipée dans l'histoire. Donc c'est dit clairement dès le début. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est bon, comme disait Fabienne au début, on est au Théâtre du Soleil et franchement, c'est le bon endroit pour que ça soit joué parce que on a cette fresque avec ces histoires nombreuses, cette façon de nous raconter des histoires avec une troupe sur scène qui déplace les objets comme chez Ariane Mouchkine. On a ce sentiment du théâtre qui nous est offert comme ça avec générosité. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très bien. On a une particularité dans cette langue, c'est que, mais vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que c'est amusant parce que c'est un peu Échille qui rencontre Pagnol, surtout dans une première partie. Et dans la deuxième, tout d'un coup, on a Shakespeare qui arrive parce qu'on a des personnages, on a le personnage du fou shakespearien à travers un chanteur qui est là pour donner à la fois des délires un peu shakespearien et priapique. Il parle aussi de beaucoup de couilles, je pense, hein, puisque on en, à mon tour d'en parler. Mais il parle aussi de politique à un moment. D'ailleurs, il y a des moments qui sont un petit peu appuyés là-dessus quand il veut absolument raccrocher son histoire méditerranéenne à la crise et à l'anticapitalisme. C'est parfois un peu lourd, mais il y a des moments de faiblesse. Moi, je sais que j'ai eu un moment de faiblesse à la reprise, c'est-à-dire l'envol des cigognes au début, parce qu'on passe de cette comédie qui est au départ tragicomédie, qui est vraiment très bien équilibrée, à tout d'un coup une tragédie qui a du mal à redevenir comique parce qu'on est en pleine guerre. Et je trouve le début un peu laborieux de cette seconde partie, un peu avec un peu plus de naïveté. La contradiction entre le comique et le tragique, ça marche moins bien. Et puis on est quand même happé. Et alors dans la dernière partie, moi j'avoue que j'ai été scotché à la fin et vraiment KO debout à la fin parce que vraiment on est pris par cette histoire et par ces comédiens. Alors on a dit, il y a Ariane Ascaride, il y a Océane Mozas.
Qui est formidable. Assad Boab.
Alors oui, alors ça pour moi c'est une révélation, je l'ai trouvé vraiment...
Vous ne l'aviez pas vu dans 10% à la télévision
au théâtre,
et dans Maroc, au cinéma.
Au théâtre, c'est toujours une révélation quand on peut voir des comédiens, justement, voir ce qu'ils peuvent donner. Il est vraiment formidable dans le rôle justement alors là, pour le coup, du petit macho bling-bling, bagarreur, au grand cœur, bon, c'est un personnage sympathique, et il arrive à être à la fois très drôle dans un premier temps, et puis bouleversant à la fin quand il pète les plombs, c'est vraiment... Bon, voilà, donc il y a beaucoup de défauts, des longueurs, il faudrait couper à mon avis dans la deuxième partie, mais c'est un spectacle généreux et pour moi un taureau théâtral qui mérite d'être reçu, même en intégrale, parce qu'il fait beau, à l'entracte on peut aller sur les pelouses,
ça va pas durer,
la cartoucherie.
Fayenne Pascoe.
Oui, moi je salue le geste, quoi. Le geste est magnifique en soi, même s'il y a les longueurs et le personnage du fou, les clins d'œil à Shakespeare, une scène de Roméo et Juliette aussi, le personnage du fou interprété par Serge Avedikian, là je trouve qu'il est un peu redondant. Mais c'est magnifique parce que c'est quelqu'un, Simon Abkarian, qui veut nous... La générosité, Philippe a raison quand il parle de générosité. Il veut nous parler de la politique, il veut nous parler de la guerre, il veut nous dire qu'on se tue tous entre frères. Mais il le dit pas si naïvement que je le dis là. C'est comme pour les femmes, même si ça nous a un peu agacés avec Lucille. Mais je trouve que quand même, quelqu'un qui veut tout raconter comme ça, sur scène, la famille, la tradition, l'archaïsme, les mythes, le aujourd'hui, demain, c'est quand même magnifique.
Bon théâtre, disait Philippe Chevillier, bon public aussi, parce que les gens qui vont au Théâtre du Soleil, je pense, vous me l'avez dit hors antenne, Lucille Comeau, il y a un très bon accueil et ça compte aussi pour la troupe, j'imagine.
Oui, ça fonctionne très bien et c'est vrai que là où il y a une vraie efficacité sur le public et qui est une efficacité aussi politique, c'est dans cette chose qui a priori est plutôt bancale mais qui fonctionne entre vraiment un fonctionnement narratif populaire qui pourrait vraiment être parfois celui de Plus belle la vie par exemple, le contexte
marseillais. Mais la langue est plus sophistiquée,
voilà,
quand même.
Et justement, confronté à cette langue-là, on se dit non mais c'est pas possible, en fait ça va pas marcher. Et même dans l'espèce de hiatus, parce que ça fonctionne pas toujours, à mon avis c'est là que ça marche. Ça marche parce qu'on se dit, ah oui, alors si elle est capable de parler comme ça, ou si on lui donne cette langue-là à tel moment alors qu'elle est en train de parler de son mec avec sa sœur, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui marche de ce point de vue-là. Et c'est dommage, du coup, d'en rajouter sur les leçons, parce qu'il y a il y a vraiment des moments pénibles. Vous êtes gentille, Fabienne, mais il y a des moments quand même où sur la guerre, sur la violence, est-ce qu'on doit tuer son ennemi ou est-ce qu'on doit l'épargner, c'est quand même extrêmement lourd et didactique. Et c'était pas la peine d'une certaine manière. Ça, il faudrait presque l'enlever parce que c'est efficace du point de vue politique. Pas besoin d'en rajouter sur la leçon, quoi. Pas besoin de rajouter des leçons.
Dernier mot, Philippe Chevillier.
Ouais, non, je trouvais que justement sur le faut-il épargner son ennemi, le discours peut-être, mais il y a une scène, moi, que je trouve très belle entre le guerrier gentil, si je puis dire, et le jeune terroriste, qui est une vraie scène de théâtre qui intervient à la fin, que je ne révèle pas, mais que moi j'ai trouvé forte. Et justement, il n'est jamais meilleur que quand il fait du théâtre, c'est-à-dire que pas nous asséner de leçons, mais de nous faire du théâtre. Et je voulais juste aussi dire qu'il y avait, moi j'avais été vraiment, j'ai beaucoup aimé les prestations de Catherine Schaub et de Marie Fabre, dans les l'une jouant la tante folle mais et féministe, et l'autre jouant la voisine Vava, et elles sont toutes les deux assez extraordinaires. Voilà.
Le dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, deux pièces signées, mises en scène, interprétées par Simon Abkarian, à découvrir jusqu'au 14 octobre au Théâtre du Soleil. À suivre dans la dispute, La Ménagerie de Verre de Tennessee Williams, en ce moment à l'affiche du Théâtre de Poche Montparnasse, le coup de cœur de Fabienne Pascaud et le petit salon de Lucille Como. Et le coup de cœur est dévolu ce soir à Fabienne Pascaud, qui a donc choisi de nous parler de la pièce de Lolé Bellon, de Si tendres liens, mise en scène par Laurence Rennes-Pennel. C'est à l'affiche du Lucernaire. Fabienne Pascaud, pourquoi faut-il donc aller voir ce spectacle?
Alors là, c'est tout l'inverse de l'écriture de Simon Abkarian, parce que
Lolé Bellon, oui.
Voilà, ça tient sur un fil. Minimal, ce sont là. Une succession d'instants, d'impressions, de souvenirs, de mémoires. Alors Lolé Bellon, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était d'abord cette formidable actrice de théâtre et de cinéma des années 70-80, c'était la génération des Emmanuel Riva, des Delphine Seyrig, des Catherine Sellers, des Suzanne Flon. Suzanne Flon était l'actrice fétiche de Lolé Bellon, des actrices qui suggérait le tout en ne faisant pas grand-chose, un silence, un soupir, enfin des femmes évanescentes et merveilleuses. On n'a plus trop d'ailleurs cette race de comédiennes aujourd'hui. Alors, de Si tendres liens, moi j'ai beaucoup aimé le spectacle qu'interprètent Christiane Coendy et Clotilde Mollet, parce que c'est une histoire proustienne, mais du côté des femmes et des filles, c'est les relations entre une mère et sa fille inversées dans le temps, c'est-à-dire que on voit la petite fille à un moment supplier sa maman de ne pas l'abandonner le soir parce qu'elle se sent seule, et puis l'instant d'après on va voir la mère malade et vieillissante demander à sa fille de ne pas la quitter parce qu'elle a peur. Elle a pas peur du noir, mais le noir pour elle c'est la mort. Donc elle joue Lolé Bellon dans De Si tendres liens sur ces relations un peu cannibales et immensément tendres entre une mère et une fille. Par exemple, la fille entendant sa mère dire au téléphone à une de ses amies que elle a pas eu de chance parce que sa fille à elle n'est pas très jolie. Donc là, la fille entend ça, et que l'autre petite fille dont on parle est tellement plus belle, et elle entend sa mère dire qu'elle aurait voulu avoir une petite fille aussi belle. Donc il y a des scènes d'une cruauté mais qui peuvent détruire une vie entière, et malgré tout il y a énormément de tendresse. Donc c'est admirablement joué par Christiane Coendy et Clotilde Mollet, ce mélange d'amertume, de tendresse profonde, de regret, de remords, et cette relation si singulière, alors les pères et les fils en ont aussi, mais si singulière, et je sais que chaque auditrice va comprendre ce que je veux dire, entre les mères et les filles, c'est très étrange.
Merci Fabienne Pascaud de nous recommander donc d'aller voir De Si tendres liens de Lolé Bellon, mise en scène par Laurence Rennes-Pennel. C'est au Lucernaire à Paris jusqu'au 20 octobre. Et oui, vous avez reconnu cette musique. Vous savez que nous sommes entrés dans le petit salon de Lucille Como, non pas par effraction, on s'annonce tout à fait. Il revient cette année, le petit salon, une fois par semaine, en variant sur le champ disciplinaire. Ce sont des jours glissants, donc forcément la semaine prochaine, ce sera le mardi. Ce sera pour la musique, la suivante, le mercredi, etc., qu'on retrouve le petit salon. Et alors, il paraît que vous avez été choqué par une réflexion que j'ai faite la semaine dernière.
Choqué.
Réflexion apocryphe. On sortait d'une discussion sur Iphigénie, mise en scène par Chloé Dabert. J'aurais dit, bon, en même temps, c'est impossible de monter Racine aujourd'hui.
Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, je le vois bien, Arzas, est nouvelle à tes yeux. Souvent, ce cabinet, superbe et solitaire, des secrets de Titus est le dépositaire.
Oh, putain, son verre.
C'est ici quelquefois qu'il se cache à sa cour, lorsqu'il vient à la reine expliquer son amour.
Ces costumes.
De son appartement, cette porte est prochaine, et cet autre conduit à celui de la reine. Va chez elle. Dis-lui qu'important à regret, j'ose lui demander un entretien secret.
Quand j'étais au collège et au lycée, j'allais parfois au théâtre avec ma classe. C'était au théâtre d'Evreux et je voyais beaucoup de Corneille. Je me souviens avoir vu plusieurs versions de l'illusion comique et aussi une mise en scène du Cid où Chimène était demi-nue sur scène, ce qui avait déclenché un tel tollé dans la salle que les comédiens avaient dû marquer un temps de pause. En revanche, la seule pièce de Racine que j'ai entendue et vue en vrai avant longtemps, ce sont ces quelques scènes de Bérénice qu'on vient d'entendre dans Le goût des autres, Anna Alvaro dans le rôle de Bérénice et Jean-Pierre Bacri qui peste dans le public. Un peu plus tard, j'ai vu la fameuse Phèdre de Patrice Chéreau enregistrée sur une cassette vidéo avec Dominique Blanc dans le rôle titre. Pas facile d'affronter Racine quand on est metteur en scène. Chéreau, lorsqu'il monte Phèdre au théâtre de l'Odéon en 2002, avait pourtant fait savoir 7 ans auparavant qu'il arrêtait le théâtre. À la surprise générale et apparemment aussi la sienne, il choisit Racine pour son grand retour. Pour le journal Le Monde, Brigitte Salino lui fait remarquer qu'il s'était pourtant juré de ne jamais monter de classique en alexandrin et surtout pas Racine. Pourquoi vous l'étiez-vous juré ? Parce que je n'aime pas. Et il ajoute « Le problème est qu'on n'entend rien avec cette musique. Rien ne parvient du sens, à part pour 2 ou 3 personnes qui connaissent bien la pièce. Voilà pourquoi je n'aime pas la tragédie française classique. » Chéreau propose une interprétation donc au problème racine, la langue, la rigidité de l'alexandrin, l'éloignement linguistique et l'effort d'écoute qu'il impose au spectateur. Mais pour d'autres, au contraire, il est un gage d'universalité et de limpidité. Alors, autre interprétation qui revient souvent sous la plume des critiques, les pièces de Racine sont trop figées. Les fameuses règles du théâtre classique poussées à leur plus radicale rigidité empêcheraient l'interprétation que suppose la mise en scène, bloquerait le sens du texte. En 2016, Fabienne, vous écriviez à propos du Britannicus de Stefan Braunschweig que Racine, je vous cite, le champion des tragédies classiques épurées, était trop rare aujourd'hui. En l'occurrence, ça ne vous avait pas tout à fait satisfaite, vous écriviez que le résultat était encore une fois bien trop figé. Et vous émettiez une hypothèse pour expliquer la difficulté aujourd'hui à monter Racine, manquerait aujourd'hui des interprètes au niveau du texte. C'est vrai que la question des interprètes pèse sur les nouvelles prises de rôle. Il y a quelques mois, à propos de la Bérénice de la jeune Mélodie Richard, la comparaison avec la grande Racine Ludmila Michael était sous toutes les plumes. Alors est-ce une question de structure, de langue ? Sont-ce les metteurs en scène et les comédiens qui ne savent plus faire ? Bref, est-ce que Racine est vouée à se cantonner aux petits classiques de l'école et à disparaître des scènes de théâtre ?
Alors, Lucile Comeau, même si finalement je n'ai jamais dit une chose pareille en ouverture, comme on a déjà entendu quasiment la voix de Fabienne Pascaud, mais qui va compléter dans un instant par la vôtre, Philippe Chevillier, première réaction peut-être à cette question posée par le Petit Salon, est-il encore possible de monter Racine ?
J'ai l'impression de faire un exposé devant une classe et de me dire que mon prof de français va me tuer si je dis quelque chose de négatif.
Il y a une normalienne dans le studio.
Eh oui, en plus, là, c'est terrible, terrible. Non, mais c'est vrai que la question, elle mérite d'être posée, ça c'est sûr, parce que on a, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a quand même l'impression que on a, dans les grands spectacles, on a quelques grandes pièces de Racine qui sont montées, mais pas tant que ça finalement, hein. Phèdre, Britannicus, Bérénice, c'est celles qui me reviennent tout de suite à l'esprit.
Andromaque.
Mmh. Andromaque est petit peu moins, mais Andromaque, oui. Et puis, l'autre chose, c'est ce qu'on disait sur l'écart qui se crée peut-être avec une jeunesse sur le poids des alexandrins, mais ça dépend aussi de comment on les prépare en classe, donc ça peut s'arranger. En tout cas, c'est vrai qu'on a l'impression que pour dire Le Monde aujourd'hui, les metteurs en scène disent, préfèrent Shakespeare, Tchekhov, etc. Corneille, on ne joue pas beaucoup non plus, hein, dans les. Bon, voilà. Mais moi, je pense que ce qui est vrai, le sacré défi, vous l'avez dit, puis d'autres l'ont dit mieux que moi, mais c'est d'une part l'incarnation, puisqu'il faut vraiment des grands acteurs et des grandes actrices pour le grand comédien pour l'interpréter. Il y a un côté trop parfait peut-être dans cet équilibre qu'il y a dans les tragédies. Il y a dans cette musique quelque chose qui peut être rébarbatif. Alors, ça, c'est parce que je me suis fait un peu l'avocat du diable. J'oubliais un autre élément, qui est peut-être que le débat qui y a souvent dans les pièces entre le pouvoir, la raison et le pouvoir et la passion. Dans le monde d'aujourd'hui, on peut avoir des tyrans et des rois, et leur passion, ils les vivent quand même. C'est pas un problème, on n'est plus dans la même structure que jadis. Mais néanmoins, d'une part, il y a d'abord cette poésie et cette musique, et je pense que ça intéresse beaucoup aussi les jeunes metteurs en scène. On a des textes contemporains qui sont, ma foi, bien plus compliqués en n'ayant pas d'alexandrin et qui sont poétiques, donc cette poésie, elle peut être portée. On a ensuite quand même des thème, et c'est pas hasard si on a par exemple Britannicus, parce qu'au sens, il y a le pouvoir. Bérénice, tout de suite, on pense à l'étrangère, aux colonies, etc. Et quand on voit ce qu'on a fait, Célipaude, ça nous renvoie à ça. Et puis Phèdre, c'est quand même une histoire d'amour absolument extraordinaire qu'il met à peu près. Moi, c'est une tragédie que j'adore. Donc finalement, au bout du compte, le théâtre est peut-être compliqué à aborder, c'est sûr, c'est très difficile, mais en même temps, moi, je pense que tout le théâtre peut être monté et surtout les classiques quand ils sont de cette valeur et de cette qualité. Donc voilà, j'ai un peu dit tout et son contraire peut-être, mais vous avez compris.
Il y a pas mal d'arguments, évidemment. Mais moi, je voudrais faire préciser les choses par le Silcomo, parce que c'est Racine l'accroche, mais on pourrait dire que c'est la même chose pour du Molière en vers. Pourquoi ce serait plus proche de nous un Molière en vers qu'un Racine en alexandrin?
Je pense qu'il n'y a pas que la question des alexandrins, je pense qu'il y a aussi la question de la structure des pièces, parce que Molière, il y a des échappées, enfin, il y a moyen de s'intégrer à l'intérieur du texte, de faire des coupes, pourquoi pas. Alors qu'à mon avis, Racine, c'est un objet tellement rond, tellement parfait, que c'est, je pense, impressionnant. Et en plus, peut-être qu'il y a même des metteurs en scène qui se disent c'est trop parfait, il n'y a rien à proposer comme type d'interprétation. C'est déjà trop fourni en sens, en possibilités poétiques.
Alors peut-être qu'il faut y aller à minima, du coup. Moi, c'est vrai que à propos de Bérénice, je sais que ça avait été moyennement apprécié à l'époque. Moi, je garde en mémoire une toute simple, proposée par Lambert Wilson, qui avait joué notamment au Bouffe du Nord à Paris, avec Carole Bouquet, Lambert Wilson, c'était Fabrice Michel qui était un formidable Antiochus, et puis il y avait George Wilson aussi qui jouait à l'époque. C'était rien, en plus plateau nu, et il y avait le texte et puis la beauté de ses interprètes.
Oui, non, mais justement, moi je me souviens d'un Bajazet très récent que j'ai vu à la Comédie Française au Vieux Colombier, qui a été fait très vite en fait par Eric Cruff.
Pour remplacer
un autre spectacle qui n'a pas pu être fait. Et probablement il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu plus de matière, plus de temps. Et c'était très bien parce que c'était très sobre. Moi je me souviens justement que les alexandrins étaient dits d'une manière extrêmement simple par les comédiens de la Comédie Française et que ça suffisait. Il fallait pas plus que ça. Il n'y avait pas 50 000 déplacements, il n'y avait pas d'interprétation folle. Et Bajazet, qui est une pièce pas très jouée et qui est géniale, vraiment, ou justement qui peut résonner avec le contemporain, c'était très bien.
Fabienne Pascaud, après tous ces commentaires.
Et moi, je reste sur l'idée de l'interprétation, parce que je trouve que Racine, il est tellement épuré qu'il est d'une modernité confondante. Il se passe quasiment rien dans ces pièces, que des histoires d'amour sombres mais sans action, sans ces actions qu'on peut trouver chez Molière ou Corneille. Mais c'est ridicule de les comparer. Mais où je m'insurge contre ce que vous disiez, ce que disait Patrick Chéreau, c'est que le sens, la difficulté de monter Racine, c'est que le sens, il vient de la poésie même des vers. C'est de la sensibilité que le spectateur, à laquelle le spectateur est éveillé, c'est de là que lui vient de la compréhension, de la musique même des vers. Et le sens, il doit lui venir de la musicalité des choses. Il ne doit pas comprendre ce que ça veut dire vraiment. Il doit comprendre par l'alchimie mystérieuse des sons, des phrases, des mots. Et c'est en ça que Racine est unique pour moi. Et c'est en ça qu'il faut savoir le dire. Parce que moi, les plus belles représentations de Bérénice, les plus chanceux d'entre nous ont vu la représentation de Klaus-Michael Gruber à la Comédie Française, qui était avec Ludmilla Michael, qui était quelque chose de magnifique. Encore un peu plus loin, il y avait Francine Berger avec Samy Fray et Roger Planchon. Moi, c'est le spectacle qui a décidé de ma carrière de critique théâtrale, tellement je devais avoir 15 ans et j'ai été halluciné par la beauté. Mais encore une fois, la beauté, elle vient de la langue. Mmh. Mais ça s'apprend, quoi. Mmh. Et je ne sais pas à l'heure actuelle ce qui se fait au conservatoire là-dessus, mais on peut pas dire du vers racinien comme ça.
Au conservatoire, en tout cas.
Il y a un style, ça s'apprend, ça s'éduque. Il y a une langue, il y a la voix, il y a la diction, c'est un travail d'être comédien.
Ouais, ça se travaille toujours dans les conservatoires, rassurez-vous.
J'espère.
Non, mais c'est un fait. Mais oui, bon, réaction, Lucille, comment ?
Non, mais juste sur la question des interprètes, par exemple, Dominique Blanc, elle a joué à la
moi,
fois
c'est
une Phèdre.
Plus mauvais rôle.
Voilà, mais elle, dans le Chéreau.
Ah oui, parce que Chéreau, pour moi,
parce
d'abord,
c'est vrai qu'elle a été
Isabelle
à la fois
Adriani.
Très critiquée dans le Britannicus et en même temps totalement par d'autres que vous, louée dans le Phèdre. Donc du coup,
moi, je ne l'ai pas aimée dans le Phèdre. D'abord, je trouve que Patrice Chéreau, paix à son âme, et Dieu sait que c'était un immense artiste, mais n'aimait pas trop les femmes, quand même. Et donc, la manière dont il avait vécu Phèdre...
Vous dites ça à chaque
Phèdre,
fois, Fabienne, mais à chaque fois, je m'insurge aussi en faux.
Vous vous souvenez comment elle était habillée, Phèdre?
Non, mais
c'était d'un sac de pommes de terre.
Vous avez vu Electra, vous ne pouvez pas dire une chose pareille.
Oui, mais Electra, c'est un opéra, c'est différent.
Ah oui, mais je peux donner d'autres exemples au théâtre.
Dans Phèdre, c'était épouvantable. Le personnage qui l'intéressait, c'était Hippolyte, et Eric Ruff était sublimissime. Ça, on s'en souvient tous, c'était un de ses plus beaux rôles. Moi, je regrette qu'il ne fasse plus de théâtre, tellement il était magnifique dans Phèdre. Mais Dominique Blanc, à mon avis, il n'avait pas bien su la diriger. Dieu sait que c'est une immense comédienne.
Philippe Chevillier, vous voulez intervenir également?
Moi, je suis pas d'accord parce que je l'avais trouvé. J'avais beaucoup aimé Dominique Blanc, mais
il jouait comme Édith Piaf. Vous vous souvenez pas?
Ah bah Édith Piaf en Phèdre, c'est pas une mauvaise idée.
Ouais.
Pas tout à fait pareil.
Mais c'est vrai ce que vous disiez, Fabienne, sur la musique des vers. Mais alors le problème, c'est que il faut des grands metteurs en scène pour monter Racine, qui aient des intentions, parce que ça suffit pas de dire la musique est belle et on la laisse. Parce que les deux écueils, c'est en fait d'avoir une représentation totalement muséale et académique où il se passe rien et où justement la poésie ne passe pas. Il y a une apparence de, même si c'est bien dit, mais il y a pas d'émotion derrière. Ou alors, la difficulté, c'est la transposition où on fait un peu n'importe quoi et on se dit, ah bah, ça résiste à la transposition. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait derrière une intention et une rencontre entre le metteur en scène et un texte. Alors peut-être que Chéreau, effectivement, on sait bien que ça avait été quasiment une commande qu'il avait été et qu'il avait peut-être pas pour moi, c'est pas sa meilleure mise en scène non plus, le Phèdre. Mais je pense que c'est vraiment quand même très difficile de le monter si on n'a pas encore une fois cette flamme et cette communion avec les vers, parce que cette poésie dont vous parliez, qui effectivement au début quand on commence un Racine, en général les premiers, oulala, il y a plein de, on sait pas de quoi ça parle, et normalement si c'est bien, ouais, et ben on rentre dans,
c'est limpide,
ça devient comprendre limpide. Même
voilà, sans comprendre même et apprendre une compréhension effectivement instinctive, mais encore faut-il que derrière il y ait eu ce que vous disiez sur Planchon, qui savait admirablement lire des textes et nous les faire passer. Après, il y avait des grandes comédiennes. Il y a eu aussi, je crois, un Andromaque avec Christine Boisson et Miu Miu qui était très bien.
Un spectacle de TNP. Oui.
Voilà. Et donc, il faut qu'il y ait derrière, une lecture forte.
Bon, une lecture forte, mais peut-être une lecture simple aussi. Enfin bon, il y a une sorte de juste milieu à trouver, parce qu'il faut pas faire dire à Racine ce qu'il n'a pas écrit. Et en même temps, il y a beaucoup de choses, ces pièces se prêtent quand même à des lectures très approfondies, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir et de revoir des pièces à différents âges de sa vie, parce qu'on y trouve toujours des sens nouveaux. Ça, c'est le vrai de Racine, c'est vrai des grands auteurs également. On n'ajoute rien sur cette question ? Lucille Comeau, on peut fermer les portes ?
Tout à fait.
Allons-y.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et pour la dernière séquence de notre dispute spectacle vivant ce soir, une nouvelle production de la Ménagerie de Verre. Voilà notre classique beaucoup plus proche de nous. C'est Tennessee Williams, mise en scène ici par Charlotte Randelet au théâtre de Poche Montparnasse. Pièce qui est, rappelons-le, une plongée dans une famille monoparentale avec une mère abandonnée donc par son mari, son fils poète employé dans une usine de chaussures, sa fille qui collectionne les petits animaux en verre. Le trio va accueillir le temps d'une soirée un collègue du jeune homme, Jim.
Bien sûr, il y a une fille qui se marie. Tu t'es jamais intéressé à un garçon?
Si. Une fois, je suis tombée sur sa photographie il n'y a pas longtemps.
Oh, Laura, il t'a donné sa photographie.
Non, non. c'est dans l'album du lycée.
Oh, c'est un camarade de classe.
Oui, il s'appelait Jim. Le voilà dans les pirates de Penzance.
Dans quoi?
L'opérette que les terminales avaient monté en terminale. Il avait une voix merveilleuse. Et tous les lundis, mercredis et vendredis, on était assis de chaque côté de l'allée centrale de la salle de concert. Et là, le voilà au concours d'éloquence avec sa coupe d'argent. Tu vois le sourire qu'il a?
Oui, oui, oui. Ça devait être quelqu'un de joyeux.
Oui, il m'appelait Bleu Rosie.
Quelle idée de t'appeler comme ça.
Quand j'ai eu ma pleurésie, à mon retour, il m'a demandé ce qui m'était arrivé et j'ai dit que j'avais eu une pleurésie et lui, il a entendu Bleu Rosie. Alors après, il m'a toujours appelé comme ça. À chaque fois qu'il me voyait, il me lançait « Hey, salut Bleu Rosie !» J'appréciais pas beaucoup la fille avec qui il sortait. Emily Meisenbach. Emily était la fille la mieux habillée de tout le lycée, mais moi je doutais un peu de sa sincérité. Dans le bulletin des anciens élèves, ils annoncent leur fiançailles, mais ça remonte à 6 ans. Ils doivent être mariés alors qu'il est.
Les filles qui ne sont pas taillées pour la vie professionnelle ont toujours la solution de se trouver un bon mari. Laura, c'est ça qu'il faut que tu fasses.
Mais maman. Je suis infirme.
Mais n'importe quoi, Laura. Laura, je t'ai dit de ne jamais prononcer ce mot. Tu n'es pas infirme. Tu as juste une petite imperfection qui se voit à peine d'ailleurs. Quand on a un léger problème comme le tien, on développe d'autres atouts pour compenser. Le charme, par exemple. Oui, la vivacité. Oui, le charme. Oh, c'est ça qu'il faut que tu fasses, Laura. Une chose que ton père avait à revendre. C'était le charme.
Voilà pour cet extrait de La Ménagerie de Verre, cette nouvelle production au théâtre de poche Montparnasse. On a entendu Christina Reani qui joue la mère, Ophélia Combe qui joue Laura. Il y a aussi à l'affiche de ce spectacle Charles Templon et Félix Beauperrin. Et c'est Philippe Chevillier qui commence à nous en parler.
Ah oui, Tennessee Williams, c'est aussi un défi de le monter. Il y a aussi beaucoup de risques. On a toujours peur que ça soit monté vraiment très au premier degré, avec beaucoup de pathos, d'excitation. En plus, on est là dans ce très agréable théâtre de poche, mais qui a une scène quand même petite et très rapprochée du public, qui fait un effet de loupe. Donc moi, j'y allais un peu en craignant un petit peu ce spectacle. Mais je le dis parce qu'à chaque fois que je vois un Tennessee Williams, j'ai toujours un peu peur. Et franchement, j'ai été agréablement surpris. J'ai bien aimé ce spectacle. J'ai trouvé... Alors, Charlotte Rondelet, qui est la metteuse en scène et qui est aussi co-directrice du théâtre, a donc choisi de nous faire un décor vintage, c'est-à-dire d'en plonger dans le Saint-Louis des années 30, ce qui peut faire peur aussi parce qu'on se dit ça y est, on va être dans du théâtre-musée, sauf que d'emblée, on voit bien que c'est un peu biscornu, elle va utiliser pas mal de petits effets vidéo, les lumières, et ça tombe bien parce que au fond, la pièce qui est très autobiographique, mais aussi basée sur le souvenir, et donc le souvenir des formes, on peut être dans le rêve, et l'aspect onirique est important. Donc finalement, sans que ça soit très appuyé, on a une atmosphère onirique qui permet de créer ce léger décalage qui fait qu'on n'est pas dans le pathos des... Et puis, il y a un autre élément, c'est aussi sur les passages du texte qui sont parfois très justement dans l'excès, c'est d'arriver à les décaler aussi vers une forme de presque de petit burlesque par moment, et ça, je trouve que ça fonctionne assez bien. Par ailleurs, elle a réuni 4 comédiens qui marchent bien ensemble, vraiment. Donc Christiana Reali qui joue la mère, je trouve qu'elle est dans un bon équilibre entre justement la mama et avec des moments totalement pathétiques, des moments un peu burlesques. Et puis les moments touchants, c'est quand elle a cette part de rêve, parce qu'il faut pas oublier que le rêve du poète dont vous parliez au début, c'est de s'enfuir. La fille, c'est ses petits animaux de verre, elle s'est réfugiée dans ce monde. Et puis il y a la mère, son rêve, c'est le rêve passé. C'est-à-dire quand elle se voyait avec ses prétendants, avec le Sud tel que qu'elle le fantasme sans doute. Et cette dimension-là, cette part de rêve, elle la partage avec les autres. Et puis, les autres comédiens, bon, Charles Templon, moi, je l'ai trouvé vraiment très bon, à la fois dans ce rôle du narrateur, où là, il est un peu dans le recul, la mélancolie. Et puis, quand il revient dans l'action passée, il est tout chaud bouillant, le personnage est excédé. Et puis aussi, belle révélation que la Ophélia Kolb, qui est vraiment une actrice, à mon avis, à suivre, elle a vraiment un tempérament, et elle arrive à nous donner cette image de filles blessées, brisées. Et puis, parce qu'il y a le quatrième, Félix Beaupréau, je le trouve bien dans ce côté un petit peu garçon, un peu veule, maladroit, plus maladroit d'ailleurs que vraiment veule, et qui, que ce côté dandy, ou plutôt loser, un peu has-been, beau garçon, qui n'est plus ce qu'il est. Enfin, bref, je m'emballe un peu là.
Oui, j'arrive pas à vous arrêter.
Parce que j'ai quelques réserves aussi, mais je les dirai après.
Vous savez que c'est pas votre coup de cœur, hein, c'est pas cette semaine pour vous.
Non, mais c'est déjà passé,
donc elles ont le droit de parler.
Voilà, elles ont le droit de parler. Et puis en plus, j'ai quelques réserves, mais je les dirai après.
Alors, dites-les après avoir notamment entendu et écouté Lucile Como sur La Ménagerie de verre.
Moi, c'était une très très bonne surprise aussi pour moi. J'avais également peur de voir du Tennessee la Williams.
Pascot,
oui, j'allais vraiment avec peu d'enthousiasme, et j'étais vraiment même assez soufflée, je dois dire, par le jeu des acteurs, que je trouve vraiment très bon dans l'interprétation des personnages. Et je trouve aussi que ce théâtre va parfaitement pour jouer La Ménagerie de verre.
C'est un peu étouffant.
C'est tout petit, les plafonds sont très bas. Non seulement la scène est petite, mais en plus les plafonds sont très bas. Et du coup, à l'intérieur de ce tout petit salon, parce que du coup, on voit un bout de salle à manger, un bout de salon de cet intérieur un peu décadent dans lequel vit cette famille, est extrêmement déprimant. Produit un effet d'étouffement total. Il y a notamment ce passage où on entend de la musique un peu lointaine de Dancing, dont on comprend qu'il est juste de l'autre côté de la rue, et où il paraît en effet, par cet espace, la mise en espace, absolument impossible que les personnages se rendent. Et donc, ils sont tous les quatre à se battre dans ces toutes petites pièces. Je trouve que ça rend parfaitement la tristesse de la pièce. Moi, je me souvenais pas à quel point c'était désespérant, quand même. La Ménagerie de verre, je sais pas pourquoi, j'avais pas en tête ces personnages féminins, le personnage de la jeune fille et de la mère. Moi, je trouve que Christiana Reali, en particulier, s'en sort très bien. Vous avez parlé de cette espèce d'équilibre qu'il faut trouver entre le ridicule, parce qu'elle l'est parfois, quand elle parle de sa jeunesse, de ses galants, elle raconte 50 fois la même histoire, qu'on a dû ramener des chaises, envoyer les domestiques chercher des chaises parce qu'elle avait tellement de galants dans sa maison de maître qu'elle ne savait plus où les asseoir. Tout ça, elle le réussit parfaitement parce que ça tombe pas dans une sorte de pathos dégoulinant. On reste sur un petit endroit qui est petit, et elle s'y tient entre le ridicule total et la tragédie, quoi. On est vraiment, on se place bien. Et les autres acteurs, bon, je n'ai pas le temps de développer, puis en plus je répéterai ce qu'a dit Philippe, mais je trouve vraiment que ça fonctionne très bien tous les quatre, et que c'est très juste sur le texte de Tennessee Williams.
Bon, deuxième coup de cœur, est-ce que celui de Fabienne Pascot va s'ajouter?
Moi, je mettrais un petit bémol quand même, parce que j'étais dans le souvenir de La Ménagerie de verre qu'a monté récemment Daniel Jeannetot, ouais, avec Dominique Raymond, et qui était une somptuosité
qui vraiment, là pour le coup, une vraie lecture à la fois scénique, voilà, scénographique et
exactement,
du texte,
hein. Et moi, je trouve que cette pièce, alors c'est une pièce des débuts, hein, de Tennessee Williams de 45, donc qui n'a pas la pesanteur, la lourdeur sensuelle, chargée de culpabilité, de sexualité non assumée, qui débordera dans tout son théâtre à venir. Et c'est une pièce autobiographique qui raconte lui-même le remords qu'il a pu avoir pour cette jeune sœur qu'il a abandonnée et qui, en son absence, sera lobotomisée et interné. S'il était resté là, il s'est reproché toute sa vie, comme Claudel un peu avec sa sœur. La mère, c'est la mère possessive qui lui a bousillé son existence, qui a empêché à son homosexualité de s'affirmer. Donc cette pièce, elle marche pour moi. Elle raconte la mémoire, une mémoire trouée, des souvenirs. Elle est dans le domaine du rêve, de la réminiscence, du remords, du regret, tout ce qui peut se reprocher. Et je trouve qu'il y a trop de réalisme dans cette mise en scène. Elle est trop incarnée dans ce décor des années 30, dans ses costumes. Jeanneteau, il avait créé un espace totalement onirique, de blanc, où les comédiens semblaient même marcher sur des nuages, dans de la ouate blanche, derrière des voiles. C'était somptueux. Là, je trouve que c'est trop vrai, Oui, voilà, il y a un côté... Et les comédiens sont formidables. On est quand même content de réentendre ce texte qui est très, très beau. Mais je ne partage pas votre enthousiasme quant à la mise en scène.
Philippe Chevillier.
Alors moi, j'avais beaucoup aimé la mise en scène de Jeanneteau aussi. Il faut se rappeler qu'il avait été créé au Japon, je crois, dans un premier temps, et qu'il avait donc une résonance avec le Japon dans l'esthétique.
C'est pas les mêmes dimensions de plateau non plus.
Voilà. Donc là, encore une fois, on est dans quelque chose de plus classique, de plus simple. Mais je trouve justement que dans cet espace, on arrive à recréer quand même cette atmosphère de rêve. Le bémol, mais c'est presque un. Je me dis que le côté positif serait que avec le temps, il règle encore des différentes choses. Je trouve, parce que par exemple, je trouve que Ophelia Kolb est formidable, mais que par moment, elle est un peu trop en force quand même vers la fin. Mais c'est un petit reproche que je fais. Donc, je pense qu'il faut qu'il s'ajuste. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé en tout cas, c'est que j'ai. Alors là, pour le coup, c'est un peu la tarte à la crème que de dire cette phrase, mais j'ai vraiment bien entendu le texte. C'est-à-dire que la cruauté de cette pièce, vous disiez le côté désespéré, mais la cruauté, c'est-à-dire qu'on entend bien tous ces rouages au moment où ça bascule, où on se dit qu'ils sont en train de perdre pied les uns après les autres. Et ça, je trouve que c'est assez joliment souligné. Bon, sans que ce soit une mise en scène révolutionnaire, on est bien d'accord.
Alors, juste un point pour dire qu'il y a une programmation souterraine 10% série télé, hein, puisque vous parliez de Assad Bouab tout à l'heure. Ophelia Kolb, elle est également dans 10%. L'amante de Camille Cotin, rappelez-vous, inspecteur des impôts.
Ou
inspectrice des impôts. Lucille Comeau.
Oui, moi, le côté premier degré, je le trouve au contraire assez... j'ai pas vu la pièce de Jeanneteau, j'imagine qu'on peut faire plein de choses avec la ménagerie de verre, mais je trouve que c'est une interprétation qui se tient justement dans... C'est tellement presque premier degré que ça enfonce vraiment les personnages dans leurs conditions sociales, qui est aussi un des sujets de la pièce, et j'imagine qu'on peut en faire fi et poser la question politique autrement, mais là, de fait, le prologue du personnage, du frère, le premier prologue ancre la pièce dans le désastre à venir, la Seconde Guerre mondiale qui vient, et aux États-Unis, on est encore dans une forme d'insouciance, mais déjà en Espagne et déjà en Europe, les bombes arrivent en fait. Et je trouve que c'est assez juste finalement de la faire entendre dans ce contexte-là pour montrer le désastre qui vient et qui s'incarne là juste au niveau d'une petite cellule familiale. Pour moi, c'est assez convaincant aussi pour entendre le texte, encore une fois, je trouve qu'on l'entend très bien.
Sur la place de la musique, parce que Philippe Chevillier en parlait tout à l'heure, il y a une création musicale, hein, citons-le, et Vadim Cher, j'ai lu qu'il y avait de la magie aussi, et des effets.
De la vidéo.
Donc il y a quand même beaucoup de choses.
Oui, mais encore une fois, c'est des petites choses et c'est pas gadget. Enfin, ça intervient à des moments où c'est bien. Et c'est vrai que pour la musique, le personnage de la sœur écoute tout le temps. C'est ce qu'elle fait en fait. Elle a deux obsessions, la ménagerie de verre, ces petits objets en verre, et puis les disques de son père qu'elle écoute de manière totalement obsessionnelle. Et la musique résonne un peu. Il y a quelque chose un peu de fantastique dans la manière dont la musique résonne dans le théâtre, parce que c'est un peu éloigné. Ça peut faire un peu film. Pas film d'épouvante, mais ça a un côté extrêmement inquiétant.
Mais c'est un peu comme le décor qu'évoque Philippe. Il y a quelque chose, on ne sait pas tout à fait dans quelle réalité on se trouve.
Il y a des effets de miroir, des effets de transparence. Qui sont bien faits.
Philippe Chevillier, encore un mot.
Quand même, dans quelle réalité on est là?
Oui. Alors, encore une fois, je pense qu'on est dans les années 30, un peu fantasmé, avec encore ce côté un peu biscornu. On a, par exemple, juste pour révéler un petit effet, on a un tableau qui s'anime à un moment avec une chanson. Ça, c'est plutôt pas mal fait. On a des petits bouts des inscriptions qui amoncent les scènes comme si on était un peu au cinéma, puisque Tom, le héros, va beaucoup au cinéma. Enfin, il dit qu'il va beaucoup au cinéma. Donc, les effets sont pas mal. C'est vrai que alors pour le coup, comme on est très près, le côté magique est pas tonitruant, mais ça contribue à décaler un peu ce réalisme que dénonce, si je puis dire.
Déplore légèrement.
N'exagère rien.
Vous avez toutes et tous dit beaucoup de belles choses sur cette ménagerie de verre de Tennessee Williams, mise en scène Charlotte Rondelet. C'est en ce moment, et donc pour un certain temps, on n'a jamais de date de fin, on leur souhaite de jouer très longtemps au Théâtre de Poche Montparnasse. Mais qui voilà, Sarah Dion, ça doit être l'heure du jeu de la dispute sans doute. On va se rappeler ensemble de la question du jeu de vendredi soir, Sarah, et nous donner ensuite la réponse.
Quel roman offrant une biographie fictive de la vie d'Adolf Hitler narre son entrée aux Beaux-Arts de Vienne ?
La réponse était ?
La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt.
À gagner ce soir des invitations à la prochaine séance France Culture avant-première. Ce sera pour le film Rafiki avec sa réalisatrice, la Kenyane Wanuri Kaïou. Jeudi 13 septembre, c'est ce jeudi à 20h au Majestic Bastille à Paris. Une soirée évidemment où sera présent, une soirée qu'animera Antoine Guillot. Quelle est la question, Sarah ?
Comment le mot Swahili Rafiki se traduit-il donc en français ?
Moi, je sais. Mais parce qu'on a vu le film, c'est pour ça. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain. Postez-les sur la page Facebook La Dispute FC ou en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain donc à 19h, une dispute consacrée à la musique. C'est Lucille Como qui la présentera, oui, car il se trouve que j'animerai demain à 20h la masterclass France Culture de Salman Rushdie. C'est en public au studio 105 de la Maison de la Radio et il faut quand même que j'aille accueillir l'écrivain. Mais je passerai tout de même dans le studio de La Dispute en compagnie de Pascaline Potvin, Olivier Lam et Christophe Comte qui eux resteront jusqu'au bout, en tout cas on l'espère. Parce qu'à notre sommaire, il y aura Double Négative, Double Négative, le nouvel album de Lo, la raison de ma présence en début d'émission, je ne peux pas vous le cacher. Vous parlerez également de Sweetener d'Ariana Grande et de Dialectique de la Pop, là c'est un livre d'Agnès Guéraud, coédition La Découverte Philharmonie de Paris. Et puis il y aura un coup de cœur aussi de Christophe Comte.